Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Enchérah. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et mis bas de toi ton fardeau qui écrasait ton dos et élever haut pour toi ta renommée? Oui, car à côté de la difficulté est une facilité. Quand tu es libre donc, lève-toi et aspire à ton Seigneur.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 26 Ordi Behesht, 1400 du calendrier iranien, 16 mai 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Un responsable iranien des droits de l'homme dénonce l'inaction des États musulmans par rapport à Gaza et exhorte la réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique. Le général Rouhani affirme le soutien de l'Iran à la Palestine. Le dévoilement du superordinateur iranien Simorgh et les crimes israéliens se poursuivent contre Gaza. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique souligne le soutien continu de l'Iran à la résistance palestinienne. Le général de brigade Ismail Rouhani s'est exprimé lors d'un appel téléphonique avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Rouhani a salué la résistance palestinienne, ses performances avancées et sa capacité de défendre le peuple palestinien. Il a également fermement condamné ce qu'il a appelé les crimes brutaux des sionistes contre les Palestiniens, en particulier les habitants du quartier de Sheikh Jarrah à Quds et dans la bande de Gaza. Ismail Haniyeh, pour sa part, a salué le soutien de l'Iran au peuple palestinien et a déclaré que la bataille de Quds était la bataille et la cause de tous les musulmans. Le superordinateur national Simorgh a été dévoilé aujourd'hui à l'Université technologique Amir Kabir en présence du ministre iranien des technologies de l'information et de la télécommunication. Le superordinateur Simorgh, basé sur la virtualisation et la technologie informatique, a été créé sur une superficie d'environ 250 mètres carrés extensible à 400 mètres carrés. Simorgh peut prendre en charge la puissance de traitement de 5 pétaflops, une augmentation de 10 est envisageable à l'étape suivante. L'Iran est ainsi inclus dans la liste des 30 pays qui ont des superordinateurs avec des performances modernes. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Rome pour rencontrer des responsables italiens et des autorités du Vatican. Au cours de sa visite, le chef de la diplomatie iranienne traitera également la question de la coopération irano-italienne sur des sujets d'intérêt mutuel au niveau international. Le ministre iranien des Affaires étrangères a entamé sa tournée européenne jeudi dernier par un voyage à Madrid. Lors de son déplacement en Espagne, Zarif a rencontré le ministre espagnol des Affaires étrangères, mais aussi le ministre espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. Selon Moscou, le processus pour rédiger le texte pour relancer l'accord nucléaire de 2015 est en cours, soulignant que les négociations se poursuivent à Vienne, capitale de l'Autriche, sur la façon de relancer l'accord nucléaire. L'ambassadeur russe auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a écrit sur Twitter que les pourparlers de Vienne ont été tenus dans divers cadres et que le processus de rédiger le texte préliminaire est en cours. En cas nécessaire, nous pouvons former une autre commission mixte, a-t-il ajouté. Les crimes israéliens se poursuivent à Gaza. Israël a lancé de nouvelles frappes aériennes sur la bande de Gaza. Les nouveaux décès ont porté le nombre de morts à Gaza à au moins 174 au septième jour de l'attaque israélienne. Le bilan des morts comprend 47 enfants. Selon les médias, les avions de combat israéliens ont mené 150 raids depuis les premières heures de dimanche. C'est la frappe aérienne la plus intense lancée sur Gaza au cours des 7 derniers jours. La nouvelle vague d'attaques survient un jour après le bombardement par Israël d'un immeuble de grande hauteur à Gaza qui abritait plusieurs organisations internationales de médias. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré qu'il avait été profondément perturbé par les bombardements des bureaux des médias. Les défenseurs de la liberté de la presse ont condamné l'attaque comme une tentative de faire taire les journalistes couvrant les atrocités du régime israélien. Les missiles Hajrasem secouent Tel Aviv. Au septième jour de la guerre, Tel Aviv est secoué par des missiles de la résistance. La résistance palestinienne a fait sortir le missile Hajrasem dans la nuit de samedi à dimanche 16 mai, vers minuit heure locale, peu après l'expiration de l'ultimatum lancé par le porte-parole des brigades Qassam, M. Abu Obeid. Les sirènes d'alarme continuent à retentir à Tel Aviv, à Ashkelon et à Ashdod, cité gazier désormais boudée par les investisseurs étrangers. Les missiles tirés à l'aube ont touché Natania et Naplouse en Cisjordanie. Des manifestations pro-Palestine rassemblent des milliers de personnes à travers le monde. Des manifestations de masse ont eu lieu dans plusieurs villes de l'Amérique du Nord et ailleurs dans le monde pour condamner l'agression meurtrière d'Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Les manifestations ont eu lieu dans les villes américaines de New York, Boston et Washington, ainsi qu'à Montréal au Canada. Les manifestants ont appelé à la fin des attaques israéliennes et les ont dénoncées comme des crimes de guerre. Ils ont agité des drapeaux en scandant des slogans « Fin d'apartheid israélien » et « Liberté pour Gaza ». Des rassemblements similaires ont eu lieu dans la ville australienne de Sydney et dans les capitales tunisiennes et irakiennes. Au Liban, les gens se sont ralliés le long de la barrière de séparation avec la Palestine occupée, scandant des slogans contre le régime criminel d'Israël. la capitale de la Turquie, Ankara, a également été le théâtre de manifestations contre le régime sioniste. Au Qatar, des centaines de personnes ont organisé une manifestation à Doha pour condamner les criminels israéliens et soutenir les Palestiniens. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Un haut responsable iranien des droits de l'homme a fermement condamné l'inaction des pays musulmans concernant les attaques du régime israélien contre Gaza et le massacre d'un grand nombre d'enfants et de femmes palestiniens, appelant à un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, pour aborder la question. Quels autres crimes les sionistes devraient-ils commettre pour que les pays musulmans convoquent une réunion de l'Organisation de la coopération islamique, a déclaré Ali Bareilly Kani, secrétaire du Haut Conseil de la magistrature iranienne pour les droits de l'homme, dans un message publié sur son compte Twitter. Il a ajouté que la tenue d'un sommet extraordinaire de l'OCI est le moins que les gouvernements musulmans puissent faire pour le peuple palestinien opprimé. Gaza et d'autres territoires palestiniens mijotent de colère face à la politique d'accaparement des terres d'Israël à Qods occupée, ainsi que la profanation par le régime sioniste du complexe de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu le plus sacré de l'islam. Les tensions ont dégénéré en un conflit plus large entre Gaza et Israël lundi, quelques jours après que le régime de Tel Aviv a lancé une répression violente contre les fidèles palestiniens à la mosquée Al-Aqsa pendant les derniers jours du mois de jeûne sacré du Ramadan. Depuis lors, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes à grande échelle à travers Gaza, rasant des maisons et des infrastructures civiles de cette région. L'artillerie et les chars d'assaut du régime sioniste ont également visé l'enclave côtière sous blocus. Malgré les appels internationaux à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités, y compris de la part du chef des Nations Unies, Antonio Guterres, le premier ministre du régime israélien, Benjamin Netanyahou, s'est engagé à ce que l'offensive contre la bande de Gaza se poursuive. Dans un tweet séparé, M. Bareilly Kani a également critiqué certains pays arabes pour avoir normalisé leurs relations avec le régime israélien sous prétexte de paix, affirmant qu'ils avaient poignardé dans le dos de l'Oumma islamique et devraient donc être tenus pour responsables du sang des enfants palestiniens. Il a également écrit un autre tweet sur Gaza et a déclaré « Si jusqu'à hier, avec le soutien des États-Unis et de l'Europe, les soi-disant défenseurs des droits de l'homme, Gaza était qualifié de plus grande prison du monde, il est maintenant devenu le plus grand crématorium du monde avec le soutien de certains dirigeants arabes rétrogrades. » faisant référence à sa récente rencontre avec l'ambassadeur syrien à Téhéran, M. Barely Kani, a déclaré qu'il avait dit à l'envoyé syrien que la coalition de la résistance est désormais plus forte et que le régime sioniste est plus faible que jamais. Ce responsable iranien des droits de l'homme a en outre appelé la communauté internationale et toutes les nations et tous les peuples en quête de liberté, quelle que soit leur religion, à défendre pleinement les Palestiniens opprimés et à contrer les terroristes sionistes. La Palestine est vivante et respire, a souligné Barely Kani.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder ce qui se passe actuellement entre la bande de Gaza et le régime agresseur et saoudien. Le mouvement de résistance islamique de Palestine, le Hamas, a dévoilé en fait son missile d'une portée de 250 km. Le missile qui a visé l'aéroport de Ramour, de ce qui a en fait été plongé dans un état de panique. L'ensemble du régime israélien, tous les aéroports du régime saoudien sont fermés, tous les vols sont suspendus. Des millions, en fait, d'Israéliens se trouvent désormais dans un état de panique face à cette riposte, en fait, de la résistance palestinienne à ces agressions et à ces atrocités du régime israélien. Et du côté, en fait, toujours du mouvement de la résistance islamique, le chef du bureau politique de ce mouvement ismaïlanien a appelé toutes les nations arabes et musulmanes à, en fait, venir en aide au peuple palestinien. Et du côté, si vous voulez, du régime saoudien, du régime israélien, le régime israélien qui a procédé à d'intenses bombardements de la bande de Gaza, 120 Palestiniens, dont plusieurs enfants et femmes, ont été tués dans ces bombardements de la bande de Gaza par l'aviation israélienne. Mais la donne a changé en faveur, si vous voulez, de la résistance palestinienne, surtout avec ces missiles qui sont utilisés contre, si vous voulez, Israël, des missiles qui sont d'une haute précision. Je viens de vous le dire tout à l'heure, un missile d'une portée de 250 km a visé l'aéroport de Ramon, dans ce port stratégique d'Ilat du régime israélien. Et avant cela, la résistance palestinienne avait visé l'aéroport international de Ben-Gourion. On va vous en parler avec deux des invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale des Syriennes, un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnon Develé. Maître Develé, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develé, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de l'invitation, bonjour à toute l'équipe de TV, à tous vos téléspectateurs et à Maître Develé.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet de ce qui se passe actuellement entre la bande de Gaza et le régime israélien, pour mieux dire entre l'ensemble des Palestiniens, parce que désormais de la bande de Gaza, la Cisjordanie même, les vrais Palestiniens qui se trouvent à Al-Quds sont impliqués dans cette résistance contre l'occupation israélienne. Madame Midani, la résistance palestinienne a faussé tous les calculs en fait du régime de saoudien, parce que en fait avec ces missiles, avec cette capacité de si vous voulez de défense, le régime israélien ne s'attendait pas, si vous voulez, à une telle riposte, madame Midani, n'est-ce pas?
En effet, ce que je voudrais, c'est dire d'abord que c'est l'ensemble du peuple palestinien qui est impliqué dans cette intifada aujourd'hui. La Gaza est venue à la rescousse du peuple de Jérusalem qui a pendant plusieurs jours subi les exactions tous les jours de la dernière dizaine du mois de Ramadan, a subi les exactions, l'oppression, une répression féroce de la part de l'armée israélienne qui l'empêchait de faire ses prières, qui l'empêchait d'accéder à l'Aqsa, mais aussi des agressions violentes des colons, qui ont systématiquement aussi violé la mosquée Al-Aqsa sous la protection de l'armée israélienne. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, donc l'armée israélienne allait détruire les maisons et expulser tous les habitants du quartier Sheikh Jarrah, qui est à côté des quartiers de Jérusalem et d'autres quartiers, pour mettre dehors les Palestiniens et s'approprier leurs maisons, voire même les détruire. Troisièmement, la répression aussi a été très très violente dans tous les coins de la Palestine face à ces manifestations de soutien au peuple de Jérusalem, à la population de Jérusalem, et qui ont appelé effectivement Gaza à leur rescousse. D'ailleurs, le slogan c'était Yalla Yalla Gaza Misham Allah. Et il faut savoir quand même que Al-Quds est un lieu saint, pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, parce que la même chose s'était produite aussi lorsque les Palestiniens allaient faire la messe à la cathédrale de la Nativité à Bethléem. Ils ont été violentés, battu, etc., par les Israéliens. Donc, Gaza est venu secourir la population qui est systématiquement agressée et très violemment agressée par le régime israélien. Et donc, ils ont répondu présents pour défendre le peuple palestinien. Un deuxième point qui est important aussi, c'est que ce n'est pas seulement à Gaza, Hamas et Jihad islami, mais c'est aussi avec l'approbation de la totalité de l'ensemble des organisations palestiniennes.
Merci.
Donc ça c'est très important, c'est un événement très important, que l'ensemble des organisations sont unies dans cette décision qui est de secourir Al-Quds. Donc suite à ça, effectivement, il y a eu une riposte de Gaza qui a été suivi d'une agression sans précédent, très violente, par les avions, des bombardements sans précédent contre les civils à Gaza. Donc des immeubles entiers, il y a eu deux immeubles de dizaines d'étages, hein, qui abrite des familles palestiniennes, et qui aussi un autre immeuble qui abrite aussi comment dire, des agences de news, en fait, hein, des agences de communication et d'information de différents pays, de différentes organisations étrangères et arabes. Et donc, aussi, ça a été détruit. Donc, et cette violence donc, dans les bombardements n'a pas cessé depuis deux jours maintenant contre Gaza, qui est, rappelons-le, un secteur qui est surpeuplé, qui est très petit d'ailleurs, 156 km², mais aussi la résistance palestinienne donc a montré qu'elle est capable de se défendre et de riposter. Il y a eu donc des missiles très précis qui sont tombés sur l'aéroport de Ben Gurion, comme vous venez de l'annoncer aussi sur notre aéroport, qui est un aéroport stratégique, mais aussi contre un dépôt de pétrole du côté de Haïfa, contre un certain nombre d'installations stratégiques. Et surtout, je voudrais rappeler qu'il y a eu une attaque contre la plateforme de gaz en face de Gaza, donc dans la Méditerranée.
Merci beaucoup.
Ceci montre très bien que les Palestiniens sont résolus à se défendre face à cette agression israélienne permanente.
Merci beaucoup. On va partir maintenant tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnon Develé. Maître Develé, vous venez d'entendre les explications de Madame Aïssa Midani, Madame Midani, qui dit que voilà, la résistance palestinienne, l'ensemble de la résistance palestinienne, le Hamas, le djihad islamique et d'autres factions palestiniennes, a démontré que voilà, qu'elle est capable de se défendre et de riposter, d'autant plus que, comme l'a dit tout à l'heure Madame Midani, la résistance palestinienne a visé avec des missiles précis des sites, si vous voulez, et également des objectifs et des cibles vitales à l'intérieur du régime saoudien.
Israélien,
oui, en effet.
Du régime, pardon, excusez-moi, aujourd'hui je comprends toujours, du régime israélien.
Oui, en effet, vous faites bien de le souligner parce qu'un haut dignitaire sioniste a lui-même mis en garde que ce que l'armée sioniste était confrontée, à savoir donc la toute nouvelle capacité balistique de la résistance palestinienne ne constituait en fait que 10% de ce que l'armée sioniste aurait à gérer, ne serait-ce que si la résistance libanaise rentrait dans le jeu. Ce qui veut dire que quelque part, environ 5-6 jours maintenant, depuis l'escalade des événements à Afrout, son déploiement au travers de toute la Palestine occupée, non seulement la résistance palestinienne a fait bien mieux que se défendre, elle a revitalisé, si je puis dire, la cause palestinienne en la portant haut et fort et en remettant, en imposant sur l'agenda de l'ordre du jour à travers le monde la tragédie qui s'y trame, la véritable nature du régime sioniste, mais elle a quelque part, ce faisant, institué le doute dans l'esprit de l'état-major sioniste. Parce qu'effectivement, ces frappes sur des endroits stratégiques révèlent que si toutes les composantes de la résistance venaient à joindre le combat, et l'appel a été lancé, hein, je le rappelle, par le secrétaire du politique de la branche du Hamas, hein, Monsieur Hanieh. Donc, quelque part, on a l'impression d'assister à une espèce de guerre psychologique, une espèce de non-dit, mais qui s'exprime quelque part par les efforts israéliens d'essayer d'enrôler les puissances, les puissances essentiellement du Golfe, les monarchies du Golfe, qui ont signé ces accords de normalisation, afin que ces dernières procèdent à des approches auprès de la résistance palestinienne, afin qu'un cessez-le-feu soit obtenu. Mais la résistance palestinienne a décidé qu'il était hors de question de s'asseoir et de discuter de quoi que ce soit à moins que des grandes avancées portant sur des axes essentiels de la libération d'Al-Quds et de l'arrêt de la colonisation, ce qui est complètement, bien sûr, inacceptable pour les autorités sionistes, et ce qui relève aussi le fait que ces monarchies golfiennes sont en fait des tigres de papier qui ont vendu leurs principes pour une forme de bonne validation, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur parce qu'ils ont perdu toute légitimité et le respect de beaucoup de peuples dans la région. Et elle-même maintenant s'inquiète de voir que l'entité sioniste elle-même n'est pas en mesure d'imposer un nouvel ordre dans la région et qu'ils auront un jour à rendre des comptes quelque part. Donc il y a énormément de choses qui se passent au-delà des combats, au-delà des bombardements, bien sûr. Alors, bombardements sans discrimination aucune sur les civils, les civils gazaouis. On est à environ 119 morts après 3-4 jours de bombardements. Et on peut imaginer que, avec le temps, ça va bien sûr s'aggraver. Mais ça, c'est la nature du régime soudiste, de toute façon. C'est la doctrine qui a été mise en place déjà il y a plusieurs années de cela. Il ne s'en cache pas. Il l'avait expérimenté au Liban déjà à l'époque. L'idée, c'est d'infliger un maximum de dommages sur les populations civiles afin de dissuader, si on peut penser que ça n'a aucun sens logique, mais enfin pour dissuader les gens en face de se défendre. Donc c'est la doctrine israélienne. Donc voilà un petit peu dans la situation, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, la situation au sens stratégique. Et d'ailleurs, les Américains ont été obligés d'évacuer leurs propres soldats et de les redéployer à Chypre. Donc c'est pour vous dire que la sanctuarisation de l'État sioniste est complètement fragilisée. Le dôme de fer a montré ses limites. Et que plus que jamais, il y a comme une espèce de dissonance cognitive. Les prochains jours vont être fascinants à observer parce qu'il se passe quelque chose de manière définitive, ça c'est sûr.
Maître de Volet, permettez-moi de vous poser également cette question. Venez en fait de faire allusion à ces bombardements des civils par le régime israélien. Vous êtes juriste. Eu égard au droit international, et ces bombardements, parce que qu'ils visent en fait directement des civils, des zones résidentielles, sont-ils considérés, eu égard au droit international, comme des crimes contre l'humanité?
Oui, absolument, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, et je pense que, eu égard aux déclarations assez explicites de Gantz, comme quoi Gaza allait brûler, c'est un ordre direct, quelque part, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est en position, en tant que ministre de la Défense, de mettre à exécution certaines politiques de ce style. Et là, on est vraiment en présence d'une attaque et d'une incitation au génocide, hein, ni plus ni moins. Donc ça va certainement aller étoffer le dossier pour peu que la volonté politique existe et l'indépendance judiciaire existe à la Cour pénale internationale de effectivement rajouter des éléments au fichier israélien. Mais plus que ça, et il faut surtout le souligner dans ce sens-là, ces doctrines israéliennes rejoignent un peu ce que les Israéliens ont toujours fait quand ils imposent cette notion de d'autodéfense anticipatoire, qui n'a absolument aucune réalité en droit international, de manière générale, hein. Mais les seules façons d'obtenir le droit d'usage de la force, c'est soit le Conseil de sécurité autorise, vote, sans qu'il y ait de veto sur la question, donc l'usage de la force, ça participe d'un consensus au sein même des Nations Unies, ou alors, et ce, conditionné par la proportionnalité, l'immédiateté de l'attaque et l'imminence du danger, l'article 51, donc, qui est l'autre exception quant à l'usage de la force, l'autodéfense. Les Israéliens ont toujours pris des libertés avec le droit international. Ils ont inventé des doctrines diverses et variées en, en tordant les mots et en essayant quelque part. Et à l'instar un peu des Américains, quand on entend Blinken parler aujourd'hui de rule-based order, les Chinois et les Russes, sont les yeux écarquillés quand ils entendent des choses comme ça. Mais pourtant, ce sont ce genre de personnes, ce sont les mêmes à Washington, les mêmes à Tel Aviv, qui inventent des doctrines, font une distorsion du droit international et font fi des textes de l'interprétation qui en a été donnée de manière consistante, par les uns comme par les autres.
Merci beaucoup. Madame Mehmidani, le régime israélien se trouve dans un embarras total parce que, en fait, d'une part, il est confronté, vous l'avez dit, Maître de Volley également vient d'y faire allusion, il est confronté en fait à cette riposte cuisante de la part de la résistance palestinienne d'une part, et d'autre part, il y a ces soulèvements de ces Palestiniens vivant dans les territoires occupés de 1948 contre le régime israélien, et c'est inédit, Madame Mehmidani, n'est-ce pas?
Absolument, c'est la première fois où l'ensemble des Palestiniens se réunissent dans une lutte et dans une intifada. Donc on voit qu'il y a des grandes manifestations dans les villes de Akka, Haïfa et Haïfa, même dans le sud complètement de la Palestine occupée. Et en fait, il y a aussi des confrontations importantes avec la police, et c'est-à-dire avec la police et les colons. D'ailleurs, ce matin, j'écoutais des gens qui faisaient des témoignages, effectivement, à partir des villes de Naplouse, aussi de l'intérieur, mais aussi même des villes de la Cisjordanie. En fait, les colons sont d'une violence inouïe. Ils s'attaquent à la population, ils sont armés, ils violentent la population, ils cassent leurs biens, etc., ce qui ne fait que effectivement encourager les gens, les Palestiniens, à continuer à se défendre. En plus, alors l'État fantoche, je vais dire, d'Israël, qui parle de guerre civile, alors que c'est une véritable guerre d'agression contre les Palestiniens. Ce sont eux qui agressent et ce sont eux aussi qui disent ah là là, on veut se défendre. Mais maintenant, les choses commencent peut-être à être de plus en plus claires aux yeux du monde entier, puisqu'il y a aussi des grandes manifestations de soutien aux Palestiniens qui se passent dans tous les pays du monde. Je viens de voir aussi qu'à Chicago, il y avait une très grande manifestation de soutien au peuple palestinien, qui scande Free Palestine. Une énorme manifestation à Chicago. Il y a eu d'autres manifestations hier à Paris et aujourd'hui sont attendues. Alors, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que même les Bahreïnis, dans un pays qui a fait alliance avec Israël, l'État du Bahreïn, sous la pression de Trump et Jared Kushner, bon, maintenant, le peuple bahreïni a fait de grandes manifestations de soutien aux Palestiniens. Le peuple jordanien, qui aujourd'hui avance vers les frontières aussi en soutien aux Palestiniens, et il y a une grande avancée des masses du peuple jordanien vers la frontière avec la Palestine parce qu'ils les soutiennent. Donc tout s'est bien sûr ajouté à les manifestations de soutien en Syrie, au Liban, ça va de soi, mais vraiment dans tous les pays arabes, mais aussi dans tous les pays du monde, même à Londres. C'est très très important. Ceci met en difficulté de plus en plus grande, je dirais, le régime israélien.
Merci beaucoup.
Qui, de fait, a un gouvernement qui n'a pas de gouvernement, qui a aussi qui a un régime qui est complètement dissocié, ébranlé, etc., et qui n'a absolument aucune présence qui a été aussi très ébranlé aux yeux des colons.
Merci beaucoup. Madame Aïssa Armidani, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volley qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. L'Union africaine condamne fermement les attaques israéliennes à Al-Aqsa et à Gaza. La commission de l'Union africaine a fermement condamné les attaques des forces israéliennes contre les fidèles de la mosquée Al-Aqsa et le bombardement de la bande de Gaza faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés parmi les Palestiniens. La commission a déclaré par la voix de communiqué que le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les bombardements dans la bande de Gaza qui ont tué en fait des dizaines de Palestiniens et les violentes attaques perpétrées contre la mosquée Al-Aqsa et les fidèles palestiniens par les forces israéliennes, ce qui a entraîné en fait la blessure des centaines de Palestiniens en de ce mois béni. Mahamat a affirmé par la même occasion le soutien continu de l'Union africaine au peuple palestinien dans son effort légitime d'établir un État indépendant et souverain avec Quds Est pour capitale. La situation alarmante à Al-Quds était au centre d'une conversation téléphonique entre le président tunisien Kais Saied et le président du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, selon un communiqué de la présidence tunisienne. Selon la même source, le président tunisien a affirmé que la position de son pays face à l'agression contre Al-Quds dépasse une simple condamnation pour constituer un hommage à la lutte et à la résistance du peuple palestinien. La Tunisie n'épargnera aucun effort pour se tenir aux côtés des frères palestiniens afin de retrouver leurs droits volés qui ne peuvent faire l'objet de compromis ni de tractations sur ordonnance, quelle que soit la gravité de l'injustice et de l'agression, a affirmé le président tunisien. L'Afrique du Sud a réitéré son appel à inclure un pays africain au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vice-ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, Alvin Abbott, a tenu ses propos lors d'un symposium visant à réfléchir sur le rôle joué par l'Afrique du Sud dans la promotion du multilatéralisme en Afrique et dans le reste du monde. L'Afrique du Sud appelle à la transformation du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la base de la déclaration de Sirte et du consensus des Uluwini qui dispose, entre autres, que l'Afrique doit avoir un membre permanent à tous les niveaux du Conseil de sécurité, a-t-il indiqué. M. Bott a souligné qu'avec un membre non permanent présent pour 2 ans seulement au Conseil de sécurité, il était difficile de maintenir une cohérence. L'essentiel, quand nous voulons approfondir le multilatéralisme, c'est de transformer le Conseil de sécurité
sécurité, en fait, un organe primordial de l'ONU qui réglemente la conduite et la position des États membres en manière de, en matière, pardon, de paix et de développement, a-t-il poursuivi. Le président ougandais appelle ses homologues africains à œuvrer à la sécurité et au développement du continent. Le président ougandais Yoweri Museveni, qui a prêté serment le 12 mai pour un nouveau mandat de 5 ans, a appelé ses homologues africains à construire une Afrique unie capable de garantir la sécurité et le développement du continent. Dans son discours d'investiture, M. Museveni a déclaré devant plus de 11 chefs d'État africains présents à l'événement que l'Afrique devait s'efforcer de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Le dirigeant ougandais, qui est au pouvoir depuis d'environ 35 ans, a souligné que les puissances extérieures devaient traiter avec l'Afrique selon les termes imposés par l'Afrique et non selon leurs propres termes. Pendant trop longtemps, le développement de l'Afrique a stagné en raison d'un manque d'unité, d'ingérence et de puissance étrangère, a-t-il souligné. Nous sommes avant tout pro-Afrique. C'est pour cette raison que les pays amis ne doivent pas traiter les questions stratégiques les plus épineuses du continent que via l'Union africaine. Contourner l'Union africaine est inacceptable lorsqu'il s'agit de questions stratégiques africaines dangereuses, a-t-il déclaré. Il a fait valoir que si l'Afrique voulait assurer sa sécurité stratégique et la prospérité de ses peuples, elle devait renforcer son intégration économique et mettre en place dans certaines régions une véritable fédération politique. Je suis heureux de voir que nous travaillons à présent sur la zone de libre-échange continentale africaine dans le but de créer un marché commun à toute l'Afrique ainsi que sur l'aide confédération de l'Afrique de l'Est qui sera le premier pas vers une fédération politique de l'Afrique de l'Est, a-t-il souligné encore. En Afrique de l'Est, nous ne devons pas répéter l'erreur de 1963 lorsque certains acteurs nous ont fait manquer notre objectif de création d'une fédération politique, a-t-il ajouté. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Georges Doncor, a indiqué que son institution était déterminée à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire, ont rapporté des médias ivoiriens. Nous allons dans le sens d'un accroissement de nos actions pour un soutien tangible à la Côte d'Ivoire, a-t-il dit à l'issue d'une rencontre avec des officiels ivoirien. Pour lui, la consolidation des relations entre sa banque et le gouvernement ivoirien à travers sa stratégie de développement est essentielle. L'institution qui agit depuis plus de 40 ans dans la sous-région ouest africaine compte bien mettre en œuvre 12 projets majeurs en cours en Côte d'Ivoire estimés à près de 1,7 milliard de francs CFA, environ 3,5 millions de dollars. Elle compte également apporter sa contribution à la réalisation de projets liés à la numérisation, au développement humain, aux infrastructures et au secteur industriel. Les pays africains ont acquis à ce jour 38,03 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, a révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. L'Agence sanitaire de l'Union africaine, organisation continentale composée de 55 membres, a déclaré que 22,4 millions de doses de vaccins contre le coronavirus sur les 38,03 millions acquises par les États membres avaient été déjà administrés. Ce chiffre correspond à un taux de couverture de 1,48% au niveau continental, 0,40% de la population ayant reçu les deux doses de vaccin selon le CDC Afrique. D'après l'agence continentale, les pays africains ont utilisé près de 58,87% des stocks de vaccins disponibles contre la COVID-19. 5 des États membres, à savoir le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, le Kenya et le Maroc, ont administré le plus de doses de vaccins à leur population respective. Le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, figure à la deuxième place avec 1,67 million de doses administrées et 0,82% de sa population entièrement vaccinée. Enfin, l'Éthiopie est le troisième pays ayant administré le plus de doses de vaccins contre la COVID-19 en Afrique avec 1,3 million de doses injectées et 1,13% de sa population entièrement vaccinée. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone Iran.
Thank you.